Bonjour à tous, voilà, c'est le troisième épisode de notre série Le Rock au Féminin qui a lieu dans le cadre de Elle, une semaine au Féminin ici sur Blois. Donc la thématique aujourd'hui c'est les musiciennes, en fait les techniciennes, c'est ça Timo?
Oui tout à fait, les techniciennes, alors les musiciennes on a appelé ça comme ça, c'est plus doux, mais bon c'est les techniciennes parce que la musique montre beaucoup l'image de la femme qui chante, celle qu'on met devant la scène bien habillée, gracieuse et qui utilise le seul instrument qui passe exclusivement par le corps, la voix, sans qu'elle aurait vraiment besoin de travailler cet instrument-là, la femme entourée d'hommes techniciens qui jouent de la musique, etc. etc. Donc, on voulait s'intéresser donc, aux musiciennes, celles qui jouent d'un instrument. Donc, on va le voir, certaines femmes ont été de redoutables techniciennes instrumentistes, voilà, c'est vraiment le terme, mais aussi ont été capables d'être influentes dans le monde de la musique, arrangeuses, musiciennes, de studios virtuoses. On va voir ça tout de suite, donc avec...
On commence avec Carole Kay, qui était une bassiste.
Mmh. Oui, c'est ça, une bassiste très peu connue, que je ne connaissais pas avant de réaliser cette émission. Je l'avoue.
Mais qui néanmoins a un pédigré incroyable.
Oui, un pédigré incroyable. Donc elle est née en 1935 aux États-Unis. Elle est toujours vivante. Elle est reconnue comme étant la bassiste la plus prolifique de l'histoire de la musique. Elle aurait participé à environ 10 000 enregistrements pendant 50 ans. 50 ans, c'est 18 000 jours. J'ai fait mon petit calcul. Donc faites le calcul vous-même.
Donc qu'est-ce qu'on avait dit ? C'était quasiment deux enregistrements par jour ou un tous les deux jours.
Elle était très présente en studio parce qu'elle était musicienne de studio. Elle a commencé à jouer dans les clubs de jazz et très vite en fait son style de jeu, c'était une bassiste, on l'a peut-être pas dit.
Si
on l'a dit, ouais.
Ouais.
Voilà, elle jouait avec un médiator, les techniciens se rendront compte du son que ça donne sur une Fender Precision qui est un type d'instrument assez particulier dans la basse. Ni plus ni moins, elle a collaboré avec Ray Charles, entre autres, hein, la liste n'est pas exhaustive. Simon & Garfunkel, les Beach Boys, Gigi Cale, le très exigeant Frank Zappa. Même Zappa a fait appel à elle, donc c'est quand même pas mal.
Mais de toute façon, on n'a qu'une demi-heure d'émission, tu peux pas dire tout le monde.
Ouais, c'est ça. Tout à fait.
Sinon, on peut faire la liste des 10 000 enregistrements.
Ouais.
Allez, à tout à l'heure.
Rendez-vous l'an prochain.
Ouais, c'est ça.
Voilà, elle a joué sur des génériques de séries, notamment La Famille Adams, pour,
yeah.
Pour la petite anecdote.
Et ben alors du coup on va tout de suite se plonger dans le bain.
Voilà, avec le morceau Bass Catch, et on écoutait bien la basse, c'est Carole Kay qui s'y colle. We'll be right back.
Et ça donne envie de se remuer, de se dandiner quand même.
Exactement. Ouais, ouais, ouais. On va commencer à secouer un petit peu la tête là.
Ah, c'est la folie dans le studio.
Bon, on va continuer avec...
Calme-toi, Béron,
calme-toi. Non, mais c'est vrai, on y va là, on garde le rythme. Sister Rosetta Tharpe, ça dit quelque chose à plein de monde, je suis sûre. Mmh. Donc c'est une chanteuse, guitariste, elle est auteure-compositrice, elle est née en 1915 aux États-Unis. Elle a joué vraiment un rôle très très important dans l'histoire du rock, puisque c'est la première musicienne qui a accompagné le gospel avec une guitare électrique. Ouais.
Wow. Elle a fait rentrer l'instrument au sein de l'église.
Exactement. Et franchement, c'est à noter, quoi, parce que c'est surtout pour l'époque. Voilà, elle a influencé Chuck Berry, Elvis Presley, Johnny Cash.
Excusez du peu.
Rien que ça, voilà. Mmh.
Chapeau bas, voilà. Mmh. Donc, ensuite, c'est vrai que c'est une femme, elle est noire, elle chante et elle joue de la guitare. Ça ne plaît absolument pas du tout aux conservateurs de l'époque. Donc, en plus, elle joue du blues et du jazz dans les nightclubs. Alors là, oh, sacrilège. Donc,
bon. L'incarnation de Satan.
Voilà, exactement. voilà, donc elle meurt en 1973 et elle reste très très influente donc pour les générations de blues woman à venir. On va peut-être écouter tout de suite un morceau pour se rendre compte. Alors, Take My Hand, Precious.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired and I'm weak and I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Linger near, yes, with my
Take My Hand Precious. On embraye avec toi, Melior.
Ouais, après Sister Rosetta Thorpe. Bref, on s'intéresse à Suzanne Tedeschi. Alors elle qui n'est pas du tout une contemporaine de Sister Rosetta Thorpe, qui était elle plutôt qui est née en 1915. Suzanne Tedeschi, elle c'est une américaine aussi, elle a 47 ans cette année. Donc voilà, on pourrait peut-être la voir si on avait envie, hein, même ça serait top.
Elle est passée il y a pas très longtemps, je crois à l'Olympia ou à Paris avec son mari là, ils sont passés il y a pas tellement longtemps, ouais.
Donc elle a un groupe avec son mari, Suzanne Tedeschi Band. Donc en fait le nom, ça porte son nom à elle, le nom du groupe c'est son nom à elle. Donc ça montre bien que c'est elle qui est la patronne carrément. Donc guitariste évidemment comme Sister Rosetta Tharpe qu'on vient d'écouter. Et elle en fait elle commence à jouer très jeune, à 6 ans elle commence à jouer de la guitare. De toute façon tous les artistes qu'on passe ont commencé généralement assez tôt à jouer. Et donc elle joue au début les premières parties de Buddy Guy, Bob Dylan, les Rolling Stones. Là aussi des petits groupes
pas trop très importants.
Et elle a eu vraiment beaucoup de reconnaissance aux États-Unis puisqu'elle a eu plusieurs prix. Elle était disque d'or en 2000. Et dans les années 2000 aussi, elle a été nommée pour de nombreux Grammy Awards, en fait, meilleure nouvelle musicienne, meilleure chanteuse.
Dans la catégorie blues.
Ouais exactement. Et en fait, donc, tiens, physiquement, juste pour on en parlait, Suzanne Tedeschi est blanche. Voilà, elle est plutôt belle, quoi.
C'est une jolie
belle femme, quoi.
C'est une jolie fille, je confirme.
Cheveux longs, châtains. Voilà, Christophe vous confirme.
Il est amoureux.
Et donc, elle joue vraiment super bien de la guitare et son jeu, il est influencé par Buddy Guy, Stevie Ray Vaughan. Elle est. Bon, on va écouter ça, en fait, finalement, parce que ça vaut beaucoup. Et le titre, c'est Rock Me Right.
Vous pouvez mettre plus fort.
Right.
Rock Me Right de Suzanne Tedeschi. Vous êtes bien branchés sur Studio Zef. C'est le troisième épisode de la série Rock au féminin. Et on enchaîne avec Nina Simone, un monument.
Alors là, tout à fait, c'est carrément une personne incontournable sur notre feuilleton. On ne pouvait pas ne pas parler d'elle.
Exact.
Parce que tout à l'heure, Thibaut, tu parlais des musiciennes. Donc elle, c'est une grande musicienne. Et puis, en matière de contestation, elle n'a pas hésité dès son jeune âge à contester la ségrégation.
Donc,
pour reprendre un peu le fil de sa vie, pour une fois, papa-maman étaient très, très preneurs d'une carrière artistique pour celle qui s'appelait pas encore Nina à l'époque, mais qui s'appelait...
On n'a pas le nom comme ça.
Bon, voilà, elle s'appelait autrement.
Envoyé par SMS 1035.
Et donc, dès 3 ans, elle était prodigieuse au piano et elle a pris des cours assez rapidement. Dès l'âge de 12 ans, son prof n'avait plus rien à lui apprendre. Elle avait une dextérité assez phénoménale. Et l'idée de sa prof, c'était qu'elle rentre au conservatoire. Et pour ça, évidemment, il faut payer.
Il aurait fallu être blanc aussi.
Et puis avoir de l'argent. Donc, dans un premier temps, parce qu'on est aux États-Unis quand même. Dans un premier temps, sa prof avait décidé d'organiser une audition avec des mécènes dans la salle. Et les organisateurs, au temps de la ségrégation, avaient décidé que les parents de Nina Simone ne pourraient pas voir Nina Simone jouer. Et donc, elle, de ses hauts de 12 ans, s'était opposée en disant si ma mère ne peut pas voir mes doigts jouer, je ne joue pas. Donc toute seule contre toute une salle, alors qu'elle n'était pas forcément en position de force, puisque c'était pour séduire des mécènes, pour rentrer au conservatoire. Elle a dit non, voilà, ça c'est de la contestation.
C'était la Rosa Parks et la musique. Ouais.
Et ce qu'il y a de super fort déjà, c'est qu'elle avait obtenu gain de cause. Et,
elle a réussi son coup déjà à l'époque.
Ses parents ont pu venir au premier rang pour la voir jouer.
Donc ce qui ne veut pas dire qu'elle a pu rentrer au conservatoire tout de suite, parce que justement, elle était noire. Et de fil en aiguille, il y a une prof qui l'a prise sous son aile. Et elle a intégré le conservatoire. Et elle a voulu continuer sur sa carrière musicale. Elle a fait des petits jobs dans des cabarets, tout ça. Et elle n'était pas super flattée de travailler dans ces cabarets, puisque elle, son truc, c'était la musique classique. C'était ça son ambition. Et donc, néanmoins, il fallait qu'elle mange, parce que ses parents étaient de conditions modestes suite à la crise de 39. Et,
29.
De 29, excusez-moi. J'ai 29. Eu un petit repère historique de...
J'ai eu un petit switch.
Et 39, c'est un autre problème.
C'est ça, ouais. Et donc, émission,
Lors de ce lancement dans les cabarets, elle a pris le pseudonyme de Nina Simone, pour deux raisons, parce qu'elle était fan de Simone Signoret, qui venait juste d'avoir
Son Oscar.
Oh là là, ma langue fourche. Et puis Nina, parce que son petit copain
l'appelait comme ça, ouais.
Nina. Et donc du coup, ses parents ne savaient pas que Nina Simone était leur fille. Et de fil en aiguille, elle a pu aller vers le registre blues, mais surtout jazz. En fait, c'est devenu vraiment une référence en matière de jazz. Et elle est devenue aussi une voix très importante pour les Black Panthers, pour le Black Power naissance. Et elle a revendiqué vraiment...
Pour les droits civiques.
Pour les droits civiques, l'abolition des droits civiques. Et elle est morte pas très longtemps.
Dans les années 2000.
Ouais, je crois 10-15 ans.
Comme
là.
Ça, ouais.
Et depuis, on voit un culte, beaucoup de gens voient un culte à Nina Simone, qui fait une musique forcément... délicieuse.
Et alors attends, du coup j'ai eu le temps de chercher le nom là de Nina Simone, donc super, hein. Eunice Kathleen Waymon, voilà, pour ta gouverne. Bon,
c'est loin de Nina Simone.
Voilà.
Tu peux le répéter s'il te plaît ?
Non, mais... je tiens un peu particulièrement si tu te moques de mon accent anglais.
Ah bah non, je suis très admiratif. Et d'ailleurs, tu parles tellement bien anglais que je te propose de nous dire quel est le titre que nous allons écouter maintenant de Nina Simone.
Ain't got no, I got life.
Ain't got no home. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother,
ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing.
Je voulais ajouter quelque chose. En fait, on peut sur internet voir pas mal de vidéos de Nina Simone, et en fait, elle était assez autoritaire durant ses concerts dans le public.
Avec aussi. Le public.
Ouais, s'il y avait un mec qui se levait, elle disait, elle arrêtait de chanter. Peut-être on se rassoit là en face. Tu vois, elle était hyper quand même autoritaire. Elle voulait qu'on l'écoute jouer, quoi.
Et ça me rappelle une petite anecdote aussi, Roxette. Quand on a fait venir Bob et Lisa dans notre petite grange, l'espace est très petit et il y avait évidemment beaucoup de gens qui discutaient. Lisa avait arrêté en disant, bah, attendez, si ça vous ennuie ce qu'on chante, vous dégagez. Hein. Mm-hmm. Et donc... Tout le monde était garde à vous, mais c'était tellement beau qu'effectivement, la moindre des choses, c'est d'écouter. Quoi.
Ouais.
Donc voilà, bon, bah, sublime Nina Simone. Nous clôturons notre troisième thématique et on va donner rendez-vous avec la chronique de Ben dès maintenant. Et puis demain, on se voit pour le numéro 4.
Allez, c'est parti.
Ok.
Bon, les filles, toujours là, Peggy, toujours en notre compagnie. Peggy qui gambade entre les pieds de chaise et le bureau. Donc voilà, je vais vous raconter une autre histoire, l'histoire d'Amandine. Alors Amandine, c'était une apache qu'on appelait, c'était ce mouvement révolte des années 20, donc dans les rues de Paris. Amandine, donc, c'est une jeune bellevilloise. Ah, Amandine, c'est une belle fille, hein, elle a de l'aplomb, elle appartient au Paris apache de la belle époque. Donc les voyous de l'époque, ce qu'on appelait. Hein. Un Paris où s'affrontent policiers et jeunes rebelles, voyous rétifs à l'ordre bourgeois. Dandies du crime qui nourrissent une culture populaire de l'insoumission, c'est toujours d'actualité. Amandine évolue au cœur de ce milieu très masculin, mais n'hésite pas à faire la loi dans sa rue. Comme ce jour d'octobre 1913, où elle doit batailler, revolver au poing contre la police. Une affaire de vol à l'entolage qui tourne mal, elle a pourtant parfaitement joué le coup. Attirant un client fortuné vers un café de la rue de la Mare, Ses complices lui font le fameux coup du père François, cravatant par derrière l'imprudent. Sortant d'un début de boisson passablement éméché, les brigadiers gâchent la fête. Amandine, éclatante en rouge carmin, fait feu en direction des agents, sous le regard d'un photographe de presse à l'affût du scandale. « Quelle émeute! Quel spectacle! Quelle gonzesse !» s'exclament les marlous. La gigolette compte ainsi quelques coups d'éclat. Mais le plus souvent, comme toutes les filles apaches, a fait la marmite, se prostitue pour nourrir son petit monde de souteneurs et d'amants. Plutôt ses amours tumultueuses que la petite besogne résignée à laquelle se soumettent les femmes de bonne réputation, pense-t-elle ironique. Les observateurs de l'époque, policiers, magistrats, journalistes, la décrivent comme une manipulatrice, tirant les ficelles, suscitant les conflits d'honneur qui se règlent au surin dans les arrière-couches des caboulots ou sur les hauteurs désertées des fortifs parisiens. Dangereuse Amandine, duplice à la fois coupable et victime, rebelle ne l'est que de manière fugace à travers les gros titres d'une édition du soir. En réalité, le regard social lui retire toute capacité à agir. Sa violence reste impensable, renvoyée vers une pathologie absconte qu'elle ne maîtrise pas. Dénoncée par son gros luchon, elle est alors placée au Bon Pasteur d'Angers par le tribunal pour enfants et adolescentes de Paris, nouvellement créé en 1914. Un large mouvement de protection de l'enfance prend corps, sensible à la question des filles, alors qu'il faut donner des mères à la patrie. Une nuée de magistrats, de gendarmes, de dames patronesques, de curés et de religieuses s'abat sur la jeunesse populaire. La rebelle rejoint alors, tête courbée, les ombres des pénitentes. Toujours avec nous les filles. Il y a Peggy qui nous lâche pas, qui est toujours près de nous. Donc avec Peggy, ben, on a décidé de vous raconter une histoire de femme insoumise. Et ben, l'histoire de la femme insoumise, là, c'est une histoire des années 1950, l'histoire de Victoire. Victoire, cette jeune fille qui a un sourire glacial, le sourire glacial des filles à qui on ne la fait pas. Ah, Victoire, elle aime dominer les hommes, hein, les séduire et les soumettre, même si souvent la honte les rend mauvais et que volent les coups. Victoire, c'est une jeune Corse de 15 ans. Comme beaucoup d'insulaires, elle vit à Marseille, chez sa tante, qui l'a accueillie à la mort de son père. Victoire habite dans le quartier du Panier. Elle est vendeuse dans une échoppe de couture détenue par un Arménien, M. Minassian. Une vie de combat ordinaire et de joie simple dans ce quartier populaire baigné par la lumière de la baie, vibrant des échos cosmopolites s'élevant du port en contrebas. Victoire mène une double vie. Ses maigres émoluments, que sa tante perçoit directement de la main de M. Minassian, ne lui permettent pas de jouir des plaisirs de la ville. Elle a rencontré au bal de la place Victor Gélu un jeune homme, Idrissa, né sénégalien, navigateur sur les bateaux de commerce. Il est devenu son paillasson, son amant de cœur. Sans emploi, Idrissa est reconverti comme souteneur. Il veille sur Victoire, relation ambiguë. Elle se prostitue occasionnellement, enfin, plusieurs fois par semaine. Il ne faut pas que sa tante sache qu'elle, sa petite, est une môme, une insoumise. Une prostituée clandestine réfugiée sous l'aile d'un noir, les rivalités entre coloniaux, antillais, malgaches et les Corses, le milieu qui domine l'espace vénal marseillais, font parfois couler le sang sur le pavé du quartier réservé de la prostitution. Il ne faut pas non plus que la police se mêle de ses affaires, alors que la prostitution des mineurs n'est de plus en plus décriée et réprimée par la loi de 1921 sur le vagabondage. Le simple fait de découcher devient un délit et la suspicion de débauche pèse sur les plus jeunes. La peur de la syphilis pointe le rôle des jeunes filles, foyer de contamination plus ardent sur le plan médical et plus insidieux car tapis dans ses corps juvéniles d'apparence saine. Insoumise, Victoire, libre, pense-t-elle, libre de vivre avec Idrissa, qui a la main moins leste que la plupart des Corses qu'elle côtoie. Libre d'errer, de danser à la nuit tombée dans les bouches de la Canebière et de s'enivrer de leur sabir.
Gloria, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous jusqu'au 12 mars chaque jour sur studiosf91.1 ou à podcaster sur studiosf.fr. À très bientôt.